L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport sur Radio Évasion. On découvre cette semaine un club de vélo du département, c'est l'Étoile Cycliste de Landerneau. Il sera question de promotion du vélo dans pas mal de ses dimensions, loisirs, compétition et puis également sécurité sur le vélo. Et on sera avec Erwan Yannick, dirigeant de l'EC Landerneau. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Alors Fred, habituellement on a notre météo sportive qui ouvre ou ferme cette émission, c'est selon. Alors pas de météo cette semaine, mais ça tombe bien.
Oui, en fait, en même temps, le temps était un peu pourri, je crois, en ce moment. Donc, on s'est dit qu'on pouvait s'en passer. Je crois qu'il y avait grève, en plus, à la météo. Bon, et du coup, en plus, la météo, elle mouille un peu les cyclistes en ce moment. Alors, du coup, comment ça se passe pour rouler?
Ça se passe quand même, ça va. Alors, on roule pas beaucoup sur la route actuellement. Même si c'est la reprise là, pour les coureurs juniors seniors, qui commencent à reprendre l'entraînement sur route. Avec les jeunes, on est plutôt sur le cyclocross, donc... Il y a de la pluie, c'est pas mal, ça fait des terrains boueux, glissants, qui permettent de faire des choses sympas. Donc voilà, on fait avec.
Très bien, alors du coup le C Landerneau, c'est un club qui existe depuis combien de temps?
Alors c'est un club qui a été créé en 1981, donc on a fêté nos 40 ans là, il y a 2 ans. Donc voilà, et puis un club qui a progressé au fur et à mesure, qui s'est développé, voilà.
Et qui rassemble combien de membres aujourd'hui entre les coureurs et les dirigeants?
Alors, entre coureurs et dirigeants, on a 63 membres. Donc, avec des coureurs un peu de tous âges, hein. Ça démarre de 5 ans jusqu'à l'année dernière, on allait jusqu'à plus de 40 ans.
Ouais, parce que du coup, un club comme Landerneau, vous avez plusieurs sections. Il y a la route, il y a la piste éventuellement pour ceux qui veulent en faire, du VTT, il y a des sections féminines, jeunes, voilà. Donc, comment ça se répartit un peu tout ça?
Alors la répartition, déjà on a l'école de vélo, donc de 5 à 12 ans, on a 17 jeunes là cette année, on se retrouve sur un site sécurisé au lycée Saint-Joseph à Landerneau, sur leur piste d'athlétisme, voilà. Et puis pour les plus grands, à partir de donc ce qu'on appelait avant les minimes, qu'on appelle maintenant les U15, donc les 13-14 ans jusqu'aux adultes, ils peuvent faire différentes disciplines. Donc la piste, en lien avec d'autres clubs, ça se fait sur l'anneau cycliste de Guy Pava. Après, le cyclocross encadré dans le club. Et le VTT, c'est une pratique qu'on encadre un petit peu moins. C'est pour ceux qui veulent en faire en plus. Et voilà. Et puis après, on a des entraînements par catégorie d'âge. Et puis, depuis cette année, une section féminine avec 10... De 17 à 37 ans, voilà, qui okay. Se retrouve pour rouler.
Et je crois que d'ailleurs que dans l'équipe féminine, il y a une actualité, il y a quelqu'un qui vous a rejoint, c'est Catel Alençon cette année. C'est une nouveauté est-ce que ça fait changer de dimension au club de recevoir des sportifs comme elle?
Ah ben oui, carrément, parce que c'est une sportive qui a pour ambition de faire les Jeux Olympiques l'année prochaine en paracyclisme. Donc c'est une dimension tout à fait différente, même si on a déjà un coureur qui a fait des courses internationales cette année avec Paul Bollarwell, qui a fait 3e du scratch sur les championnats d'Europe de vitesse au Portugal. Mais c'est une autre dimension. Et puis on voit que l'arrivée de Catel a attiré d'autres féminines au club. Donc ça donne une bonne dynamique pour développer le cyclisme féminin.
Oui, parce que rappelons-le, Catel, c'est une habituée de Radio Évasion, et
oui,
puis c'est une athlète renommée.
Pour resituer, championne d'Europe, puis elle a aussi participé aux Jeux Paralympiques de Rio et de Tokyo. Voilà, et qu'elle se prépare là. Alors, elle sera là d'ici quelques mois quand même, c'est pas pour tout de suite les sélections.
Ouais, elle a deux épreuves internationales importantes avant que la sélection soit dévoilée. Donc voilà, elle a pour but de performer sur ces épreuves-là pour avoir sa sélection pour les Jeux Paralympiques.
Et si je me trompe pas, du côté de l'EC Landerneau, il y a eu aussi par le passé des coureurs pros aussi qui ont pu à un moment donné se poser à Landerneau.
Ouais, et on en a un actuellement, Ewen Kostiou est licencié à l'EC Landerneau. Ouais. Donc voilà, il a été chez nous jusqu'en junior, en senior il est parti chez les Côtes d'Armor pour avoir une équipe d'un niveau national pour faire des compétitions de division nationale. Et donc, une fois passé professionnel, ben, il est revenu chez nous. Et donc, c'est bien parce que ben, la remise des équipements, il est présent. Et puis, ça met des étoiles dans les yeux aux petits gamins qui commencent à faire du vélo.
Et du coup, pour les cyclistes qui viennent dans le club, l'objectif, c'est devenir pro un jour, je ne sais pas, quand ils se présentent, ou au contraire, c'est surtout prendre du plaisir, je ne sais pas. Ou est-ce que vous avez en tout cas des axes comme ça que vous promouvez aux différents membres du club, quoi?
Non, alors professionnel, tant mieux s'ils deviennent, hein, mais c'est pas un objectif quand on reçoit des coureurs au club. Après, les enfants, faut leur laisser leurs rêves. Donc s'ils en parlent, ben faut les accompagner et puis pas changer l'entraînement, faire un entraînement normal, mais ça fait partie des rêves d'enfants, hein, devenir pro. Donc faut pas casser le rêve. Et puis après, ben nous, on les accompagne. Le but, c'est que chacun atteigne son meilleur niveau possible. Donc chacun a ses capacités. Il y en a qui vont gagner facilement, d'autres qui auront plus de mal à tenir dans les pelotons. Le but vraiment, c'est que chacun progresse et que vraiment chacun travaille pour atteindre son meilleur niveau possible, parce que bah, c'est quand on est compétiteur, c'est le but. Et puis c'est là, je pense, qu'on prend le plus de plaisir, quoi. Quand on arrive à progresser et puis à faire des choses intéressantes dans une course, voilà, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant pour eux.
Vous avez des sections cyclotouristes ou c'est uniquement licencié compétition?
Alors, on est principalement compétition. On a quelques jeunes qui ne veulent pas faire de compétition, donc ils viennent à l'entraînement. Mais en fait, ils se rendent compte assez rapidement qu'il faut quand même s'entraîner régulièrement pour suivre les autres et pour s'amuser sur un entraînement, quoi.
Oui, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le, entre guillemets, le parcours de formation d'un cycliste. Vous avez un peu ce rôle, en fait, parce que, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le foot, on a l'image du centre de formation. Mais dans le vélo, ça se passe comment, en fait? Vous avez un peu ce rôle-là, en fait?
Ouais, tout à fait. Alors, on a surtout une chose très importante dans le vélo, c'est qu'on a aussi la sécurité sur la route, quoi. Donc, nos coureurs, on les forme à savoir pédaler, à savoir faire du vélo, se diriger. Et on les forme aussi à se comporter correctement sur la route et à faire attention aux dangers qu'on peut avoir sur la route. Donc ça, on le fait avec l'école de vélo, si on est sur une piste, sur un site fermé. Et ben on leur apprend déjà à rouler droit, à freiner, à faire attention à ce qui se passe autour d'eux. On a aussi des panneaux de signalisation pour faire simuler en fait une circulation routière avec des panneaux routiers.
Ça, c'est vers quel âge? C'est dès le début?
Donc c'est de 5 ans jusqu'à 12 ans.
D'accord, ok.
On fait ça. Voilà, et puis ils apprennent ça au fur et à mesure. Et donc, ouais, sur le vélo, on a différentes étapes, hein, avant de pouvoir rouler sur la route, avant de pouvoir rouler dans un peloton. Et ben, la première étape, c'est de savoir se tenir sur le vélo et puis faire en sorte que le vélo roule droit et puis pas faire d'écart, des choses comme ça. Se comporter dans un groupe aussi, parce qu'on peut savoir rouler seul.
On apprend à ces âges-là à rouler en peloton déjà.
Voilà, moi par exemple, dès le plus jeune âge sur l'école de vélo, je leur apprends à rouler côte à côte, à deux côte à côte. Et ça va les aider plus tard quand ils seront en groupe à se comporter, à rouler droit, à pas faire d'écart. Et
apprendre à frotter, quoi, tout ça.
Apprendre à frotter et puis pas avoir peur quand l'autre s'approche un petit peu de pas faire un écart trop grand.
Est-ce qu'on peut considérer que le vélo est un sport individuel ou collectif?
Ben, moi, je pense que c'est les deux.
Ouais.
C'est les deux parce que il y en a un seul qui gagne. Puis même quand des coureurs ont leurs copains qui gagnent, ben, ils sont contents de voir la place qu'ils ont fait. Et puis, ben, arrivé à un certain niveau, on court par équipe, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'on se rend pas toujours compte, mais en fait, il y a souvent une équipe qui se met au service d'un ou deux coureurs, et il faut savoir, parfois avoir un œil un peu averti pour le deviner ou pour le lire, mais c'est un vrai travail d'équipe, oui.
Ouais, tout à fait. Alors, surtout sur la route, c'est moins vrai sur la piste et en cyclocross. Où là, c'est plus, bah, sur la piste, c'est clairement des courses individuelles, il y a pas droit de s'entraider en équipe, mis à part sur les poursuites par équipe ou sur les courses de l'américaine. Et en cyclocross, les coureurs sont trop éparpillés pour pouvoir faire une course d'équipe.
Au niveau des courses cyclistes, est-ce que le club organise également des courses? Et est-ce que ça demande une organisation? Ou comment ça se passe en 2023? Est-ce que c'est simple d'organiser des courses?
Ouais, alors le principe dans notre club, c'est que chaque coureur du club puisse faire une course organisée par le club. Donc on a organisé 4 courses sur route cette année. On avait d'abord une épreuve pour les écoles de vélo sous forme de tournoi de vitesse, donc quelque chose qui changeait un petit peu par rapport à une course sur route habituelle, beaucoup plus ludique. Donc c'était une épreuve d'attente de l'Essor Breton à la Fosse aux Loups. Donc ils ont pu courir sur la route où Julien Lafilippe a gagné la première étape du Tour de France. Ensuite, on avait le Grand Prix de la ville de Landerneau au mois de juin, qui là est réservé aux seniors des catégories plus élevées à partir de la première catégorie, ce qui s'appelle en Open maintenant. Donc l'épreuve remportée par Landerneau, par Ewen Billon. Ça faisait très longtemps qu'un Landerneau n'avait pas gagné à Landerneau. Et ensuite, on a eu les courses féminines à Pincran, donc à la fois pour les minimes cadettes et pour les juniors seniors. Et ensuite, on a les courses qu'on organise au mois de septembre à Landerneau, qu'on appelle le circuit des stades, où là, c'était pour les minimes, les cadets et les seniors. Donc, c'est la grosse contrainte pour nous, pour la complexité d'organiser une course, c'est gérer la circulation routière. Donc, il faut avoir assez de signaleurs pour réguler la circulation, faire un affichage en amont, mettre des panneaux route barrés pour éviter qu'il y ait trop de voitures sur le circuit. Et donc, voilà, c'est principalement ça, parce que notre terrain de jeu, c'est pas un vrai terrain de jeu, quoi. C'est une route. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et il n'y a que le Tour de France qui peut se permettre de fermer complètement un circuit. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Donc, on peut juste essayer de limiter le nombre de voitures qu'il y a dessus. Et puis, les réguler pour que ça se passe bien.
Alors la sécurité routière, c'était un des sujets qu'on voulait évoquer depuis longtemps aussi dans le LEM Sport, la sécurité à vélo en particulier. Alors je crois que tu avais aussi quelques questions là-dessus.
Oui, en fait, parce que moi j'ai regardé un petit peu les chiffres, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, parce que la mobilité douce, le vélo en est une, et donc ça le voit en poupe, donc que ce soit pour des trajets quotidiens, pour aller à son travail ou aller chercher les enfants à l'école, ou du cyclotourisme ou de la compétition, on est tous usagers de la route, et parfois usagers de la route avec des usagers motorisés qui n'ont pas tous la même allure. Et donc, on a des chiffres qui sont assez inquiétants parce qu'on voit que, par exemple, on a 30% d'augmentation de mortalité sur la route des cyclistes depuis 2019. Donc, voilà, on a des chiffres qui sont plus inquiétants. Plus 66% par rapport à 2010. Donc, voilà, on voit aussi que ce n'est pas simplement que les trottinettes, hein, au contraire. Et on voit également alors un autre aspect qui m'a, moi, un peu surpris, c'est que c'est plutôt en milieu rural qu'on a des morts sur les routes plutôt que dans les villes. Alors, comment on peut expliquer ça et comment, vous, au niveau du club, vous voyez cette question?
Ouais, alors, moi, les conclusions, les explications que j'ai et puis que je peux avoir avec des discussions que j'ai avec d'autres personnes concernées autour de moi, il y a déjà une augmentation de la circulation routière. Moi, je me rappelle, moi, j'habitais Brest quand j'étais coureur minime cadet junior. Je roulais tranquillement sur la route qui va de Gouesnou jusqu'à Saint-Renan. Maintenant, c'est pratiquement impossible pour un cycliste de rouler sur cette route-là. Et les petites routes de campagne qui sont à côté sont devenues des voies de déviation pour éviter pour les automobilistes qui veulent gagner un petit peu de temps et puis éviter les embouteillages. Donc de ce côté-là, c'est plus compliqué, c'est sûr. Alors nous, ce qu'on fait pour y remédier, c'est déjà rouler à des horaires où il y a moins de circulation. Donc il y a des entraînements collectifs le dimanche matin. Le mercredi après-midi, par exemple, j'emprunte des routes qui sont moins empruntées par les voitures. Après, on doit cohabiter avec eux. Et il y a aussi un événement, alors je ne sais pas si ça ressort dans les statistiques de la sécurité routière, mais au niveau des comportements des automobilistes, il y a le téléphone portable, je pense qu'il fait beaucoup de mal. On voit beaucoup de gens qui pianotent sur leur téléphone tout en roulant. Et c'est sûr que l'attention n'est plus là et puis c'est un risque d'accident.
Alors de l'autre côté, peut-être aussi, il est peut-être bon de rappeler, et puis en plus avec votre point de vue aussi de formateur ou d'éducateur, c'est peut-être quels sont les comportements à risque, peut-être à éviter à vélo quand on n'a pas pris la route depuis longtemps.
À vélo, la principale consigne, c'est de rouler droit. On voit des cyclistes souvent qui font des écarts, donc la principale consigne, c'est de rouler droit. Ce que je donne moi aussi comme consigne à mes coureurs, c'est d'avoir des lampes sur le vélo, même en plein jour. Parce que on a des automobilistes.
Avant et arrière.
On a des automobilistes qui sont inattentifs. Soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils ont une mauvaise vue, soit parce qu'ils regardent leur téléphone. Certains qui, malheureusement, ont consommé trop d'alcool ou même des produits stupéfiants. Donc, faut être visible pour attirer l'attention. Avoir d'événements visibles aussi. On voit quand même quelques cyclistes qui sont habillés tout en noir. Donc, moi, je trouve ça très dangereux. Donc, nous, au club, on a des couleurs voyantes sur les maillots.
C'est un maillot orange, c'est ça ?
Maillot orange, voilà, c'est ça, ouais. Qui est bien visible. Et puis après, quand on roule en groupe, nous, on a des consignes d'ordre que je leur donne. Donc, il faut savoir que, pour les automobilistes qui ne savent pas, les groupes cyclistes ont le droit de rouler à deux de front. Souvent, les automobilistes s'en plaignent. En fait, c'est une question de...
Ça rappelle peut-être utile.
Voilà, ouais. C'est un rappel utile. Et il faut savoir que c'est plus sûr, quand on est nombreux, de rouler à deux de front que de rouler en file indienne. Parce que notre groupe est beaucoup moins long. Ça facilite les dépassements. Et un groupe cycliste, c'est plus facile à doubler qu'une voiturette, par exemple. On prend moins de place. Donc voilà, moi, je forme mes coureurs là-dessus à rouler à deux de front et vraiment en file indienne. Parce que le problème qui se passe avec des groupes qu'on voit sur la route, c'est qu'ils ne sont plus à deux de front. Ils arrivent avec des gens un peu éparpillés partout. Ils considèrent que la moitié de la route est pour eux, mais la moitié de la route n'est pas pour nous. On doit prendre la partie de la route qui est nécessaire pour rouler et puis laisser la place qui reste aux voitures pour pouvoir doubler.
Donc en résumé, pour le vélo taffeur là, qui voudrait s'y mettre, un petit gilet fluo et puis des clignotants partout, quoi.
Oui, voilà. Alors moi, la consigne que je donne, c'est une lampe à l'avant, une lampe rouge à l'arrière. Alors souvent, on me demande la lampe à l'avant, on me dit la lampe à l'avant, ça sert à rien. Alors en fait, ça permet d'être visible. On a vu quelques accidents quand même où des automobilistes disaient qu'ils n'avaient pas vu le cycliste. Donc la lampe à l'avant permet d'être visible. Et puis c'est ce qu'il y a maintenant sur les voitures. Toutes les nouvelles voitures, on a un éclairage permanent à l'avant, alors qu'une voiture, c'est quand même plus visible qu'un cycliste. Donc nous, qui sommes moins visibles, il faut aussi qu'on ait cet éclairage-là.
Parce que c'est vrai qu'on a tous l'exemple du dimanche matin où on prend la voiture, on part et puis on voit des cyclotouristes. Alors ça râle, ça klaxonne, voilà. C'est vrai qu'on voit souvent quand même aussi des groupes. Alors je dis souvent, je veux pas cibler les cyclotouristes, mais c'est un peu la réalité quand même où on voit qu'ils sont à plusieurs de front et ils ont pas appris à rouler. Donc est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait une formation vélo un peu plus poussée à avoir nécessaire aujourd'hui et est-ce que vous avez des idées de
peut-être pas jusqu'à un permis de rouler, mais au moins une petite formation au préalable.
Ouais. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que dans chaque club, il y ait des éducateurs, quel que soit le club, quoi. Que ce soit un club de compétition ou un club de cyclotouristes. C'est qu'il y ait des gens formés à informer les autres sur la manière, le comportement qu'il faut avoir pour sur la route. Quoi. Donc, c'est sûr que, nous, familièrement, quand un groupe de cyclistes est désordonné, on appelle ça un troupeau de vaches. Et moi, souvent, je dis à mes coureurs qui ont entre 12 et 15 ans, quand ça commence à être n'importe quoi, parce que c'est assez naturel, hein, ils sont là principalement pour s'amuser sur un entraînement, et ils sont pas comme sur un stade de foot qui est fait pour eux, ou une piste d'athlée qui est faite pour eux, où ils peuvent courir dans tous les sens. Je leur dis non, ça commence à être le troupeau de vaches, là il faut resserrer les rangs, se remettre en file indienne, et donc voilà, il faut des gens formés, et ça, j'ai trouvé des... Quand je cherchais des éléments pour faire des formations auprès de mes coureurs, il y a des choses faites aussi par la Fédération des cyclotouristes, qui a des choses là-dessus. Donc ce qui est important, c'est surtout que dans chaque club, il y a des gens formés et qui fassent des informations sur le comportement à avoir.
Par rapport aussi à la question du casque aussi, alors ça, la question, elle se pose même plus pour un rouleur sur route, quoi.
Ouais, alors c'est tout à fait indispensable d'avoir un casque. On a quelques exemples de chutes où on se dit si le coureur n'avait pas eu de casque, qu'est-ce que ça aurait donné. Les casques de maintenant sont plus ceux d'il y a 30 ans. Hein,
plus les casques en boudin là, voilà. C'est des casques intégraux.
On n'a pas l'impression d'avoir un casque sur la tête quand on le porte. Hein, donc voilà, c'est plus une excuse. C'est quelque chose de très 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 important. Et le casque, il protège pas que la tête. Moi, j'ai dans ma vie de coureur, j'ai fait l'expérience des chutes sans casque et des chutes avec casque, parce que moi, j'ai couru une période où c'était pas obligatoire.
Enfin, donc, au milieu des années 90.
Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, pour situer un petit peu la période. Et en fait, moi, j'ai constaté que quand on chute sans casque, ben les mains, on commence à les mettre près de la tête pour protéger la tête. Alors que quand on chute avec un casque, les mains vont servir à protéger tout le corps. Donc, on se blesse moins déjà quand on chute avec un casque.
Et le casque, c'est aussi pour les trajets du quotidien. C'est pas que quand on fait du cyclotourisme ou de la compétition, c'est aussi quand on va chercher son pain à vélo, par exemple.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est à mettre systématiquement. Alors, c'est vrai que la pratique des locations de vélo en ville se développe. C'est le cas Landerneau avec T-Vélo.
Au fou également, hein, on a des vélos ouais. Maintenant avec le parc d'Armorique et la Comcom. Ça va être c'est disponible aujourd'hui pour les habitants. Et c'est vrai que là, il y a aussi peut-être un peu de prévention à faire.
Et là, en fait, c'est des vélos en libre service, donc les gens n'ont pas de casque quand ils vont réserver ce vélo. Donc voilà, c'est location, c'est bien pour développer la pratique du vélo et puis les déplacements doux, mais par contre, il faudrait peut-être réfléchir à mettre des casques à disposition.
À la location de casques aussi. Il y a des partenariats avec des institutions locales ou plus nationales pour mettre en place des sensibilisations auprès de vos cyclistes ?
Alors, on vient de faire une action avec Groupama qui faisait une sensibilisation à l'éclairage. Donc, c'était le mercredi de la semaine dernière. Voilà, sinon on n'a rien de particulier autrement là-dessus. Nous, on fait avec notre école de vélo, on fait du savoir rouler à vélo. Donc c'est une formation encadrée en trois étapes. On apprend d'abord à rouler droit, ensuite on apprend le code de la route, puis à la fin une sortie sur route pour apprendre à se comporter sur la route aussi. Mais après, pour le développer plus dans les écoles, par exemple, on manque de moyens, quoi. Ça demande beaucoup de bénévoles pour le faire.
Et on évoquait cette question au début d'émission aussi sur vous parliez même de routes presque inaccessibles pour certains cyclistes. Donc il y a des aménagements de routes qui sont prévus pour les cyclistes. Est-ce qu'ils sont toujours adaptés aux nombreuses pratiques sportives ?
Alors, c'est un des problèmes qu'on a, c'est que les automobilistes, parfois, ne comprennent pas qu'on n'emprunte pas les pistes cyclables. Quand on est cycliste, alors en groupe, déjà, on n'a pas la place pour aller sur les pistes cyclables. Et même seul, quand on s'entraîne à vélo, on va trop vite pour aller sur ces pistes cyclables. On met en danger, ou les autres nous mettent en danger, parce qu'il y a trop de différence de vitesse en fait, entre un coureur qui s'entraîne et un cycliste qui ne fait que se déplacer.
Un piéton qui emprunte la piste.
Ou même un piéton qui promène son chien avec la laisse qui traverse
exactement.
La piste.
Non, et puis même des fois, en plus, elles sont parfois pas très propres. Si on roule avec des pneus de très fins, ça peut crever. Enfin voilà, effectivement, il y a pas mal d'écueils. Et donc, du coup, il y a vraiment, je pense, à avoir cette idée qu'on est tous usagers de la route et qu'il va falloir se partager la route. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin avant d'arriver à ce que tout le monde puisse avoir les bons réflexes et les bons comportements, ça c'est sûr.
Voilà, et puis on manque un peu de signalisation. Moi, lorsque je me promène en vacances dans des zones, par exemple, quand on arrive en Pyrénées, il y a des panneaux assez régulièrement pour prévenir les automobilistes qu'il faut s'écarter d'1,50 m d'un cycliste quand on le double. Ici, j'en ai vu deux ou trois. Il n'y en a pas beaucoup et c'est une information qui n'est pas retenue ou qui est oubliée par les automobilistes qui souvent ne respectent pas cette distance. Donc 1,50 m en campagne et 1 m en ville.
Eh ben merci beaucoup, Erwan Yannick, d'être venu jusqu'à nous parler de l'étoile cycliste de Landerneau, d'avoir fait aussi quelques rappels utiles, je pense.
Merci à vous. J'ai juste oublié une information tout à l'heure par rapport aux courses qu'on organise. Il y a une épreuve qui arrive samedi qui vient, un cyclocross qu'on organise à Pincran et qui sera donc pour toutes les catégories, des plus petits aux plus grands, à partir de 13h jusqu'à 16h30 à peu près, et qui sera en hommage à Bébert Melouette, donc un cycliste des années 70-80, passionné de cyclocross, qui nous donnait un grand coup de main tous les ans pour préparer nos courses.
Eh bien parfait, le message est passé. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
L'EM, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plongée au fond.